VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro, bonjour à tous. 11h à Dakar au Sénégal, midi à Brazzaville, bonjour. Au moins 35 personnes ont été tuées depuis le début, le 4 avril, d'une offensive du maréchal Haftar contre la capitale libyenne, selon un nouveau bilan arrêté dimanche soir par le ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale GNA basé à Tripoli. Le ministre de la Santé, qui évoque aussi une quarantaine d'autres blessés, fait état de 14 morts pour la seule journée de dimanche. De violents combats ont opposé dimanche après près de Tripoli les forces paramilitaires du maréchal Haftar, qui veut conquérir la capitale aux troupes du GNA reconnues par la communauté internationale, et cela malgré les appels internationaux à la cessation des hostilités. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta appelle ses compatriotes à ne pas se tromper d'ennemis face au terrorisme. Déclaration intervenue deux jours après des manifestations des dizaines de milliers de personnes réclamant son départ et celui des troupes étrangères présentes dans le pays. Timothée Donangmaï.
Qu'on ne se trompe pas d'ennemis, a dit hier le président Ibrahim Boubacar Keïta, pendant qu'il recevait à son palais les dirigeants de la Ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali, l'Imama. Les deux leaders religieux musulmans influents, l'imam Diko et le shérif de Nioro, qui avaient appelé à manifester, n'étaient pas à cette rencontre. Vendredi, 30 à 50 000 manifestants ont condamné dans les rues de Bamako le massacre du 23 mars de quelques 160 habitants du village Peul d'Ogossagou. Ils ont dénoncé l'incapacité des autorités à empêcher ces massacres et ont réclamé le départ du président Ibeka. Les manifestants ont également scandé des slogans hostiles, notamment aux troupes françaises. Condamnant des déclarations désobligeantes pour les amis en souci du Mali, M. Ibeka a affirmé diriger un pays indépendant et souverain. Il a dénoncé une tentative de monter les forces nationales contre elles-mêmes, évoquant un cheval de Troie et un terrorisme qui a des alliés qu'on ne soupçonne pas. Sans aucune autre précision, il a aussi assuré que nul n'arrivera à subvertir le Mali, à le prendre de l'intérieur.
Le président sénégalais Macky Sall a formé pour entamer son second mandat un gouvernement composé de 35 membres contre 39 au sein de l'équipe précédente et d'un nombre légèrement accru de femmes, a annoncé dimanche soir la présidence de la République. En reconduisant samedi son chef de gouvernement, Macky Sall, qui entend accélérer son plan Sénégal émergent lors de son second mandat, lui a confié la tâche de se préparer à la suppression de son propre poste de premier ministre. Seydina Abagay est notre correspondant à Dakar.
Il s'agit d'un renouvellement en profondeur, comme l'a révélé le premier ministre et secrétaire général de la présidence. Mohamed Boun Abdallah John affirme que c'est un gouvernement nouveau, pour un élan nouveau, avec un profond resserrement organique pour plus d'efficacité.
L'économie numérique prend toute sa place dans le projet du président de la République pour bâtir un Sénégal apte à répondre aux défis de la société du futur.
L'une des réformes majeures concerne le département de l'économie et des finances. Maintenant, il y aura un ministère des finances et du budget et un autre ministère chargé de l'économie, du plan et de la coopération. Au-delà des réformes et de la réorganisation de certains ministères, le président Macky Sall a décidé de supprimer le poste de premier ministre. Cependant, le premier ministre Mohamed Boun Abdallah John est reconduit pour porter cette réforme constitutionnelle. Cumulativement, il est nommé ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'est d'ailleurs ce poste qu'il va conserver après la suppression du poste de premier ministre. Au Sénégal, ce n'est pas la première fois que le poste de premier ministre est supprimé. C'était le cas en 1963 sous Léopold Sédar Senghor et en 1983 sous le président Abdou Diouf. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
L'armée soudanaise a déployé lundi des troupes autour de son quartier général à Khartoum, devant lequel sont rassemblés des milliers de manifestants pour le troisième jour consécutif afin de réclamer la démission du président Omar El-Béchir, selon des témoins. Les organisateurs de la contestation ont appelé dans un communiqué les habitants de la capitale et des environs à se joindre aux manifestants après avoir dit samedi espérer que l'armée prenne position pour le peuple. Au Congo-Brazzaville, une dizaine de coopératives essaient d'améliorer les techniques agricoles pour produire plus de haricots dans le sud-ouest du pays. Le marché local est rempli du haricot venant des pays voisins. Les précisions Arsène Séverin.
Une dizaine de coopératives à Loudima, dans la Bouenza, dans le sud-ouest du Congo, s'est lancée dans la production du haricot. Avec l'aide du Programme alimentaire mondial, les résultats sont très encourageants. Priska Maungu a récolté 550 kg de haricots en 2018.
C'est difficile. Il y a beaucoup de travail. Mais auparavant, je ne travaillais pas un hectare. C'est là où il y a le changement. Là, par exemple, il y a 2 hectares. Bon, je vais essayer un peu de regarder. Alors, si je n'arrive pas, je vais mettre aussi le manioc. Après, je mets un peu d'haricots.
Quelques 200 personnes sont impliquées dans cette activité. Elles apprennent de nouvelles techniques pour maximiser les récoltes. Le responsable du secteur agricole, PAM.
Quand le projet est arrivé, il était question que chaque producteur puisse mettre en valeur un demi-hectare par cycle, donc un hectare l'année, donc les 2 cycles. Mais nous avons eu des producteurs qui sont arrivés à faire 2 à 3 hectares en 2 cycles. Donc c'est pour dire qu'il y a eu une avancée considérable. Et vous voyez même sur ce terrain où on est venu, c'est la culture du haricot qui sera mise en place associée au manioc pour avancer avec les techniques qu'ils ont reçues.
Au campement des Ditadi, les producteurs demandent les moyens pour produire plus et satisfaire le marché local.
Désherber et planter, vraiment, ça demande beaucoup. Non, à la fin, si le produit vraiment sort bien, tu as quand même l'avantage.
Ça, c'est des choses qui pourraient nous donner beaucoup de produits, qui peuvent nous développer même. C'est un campement, une fois, ça deviendrait un village, parce que des gens de Dolizy, de Kaï viendraient pour travailler.
À Brazzaville et à Pointe-Noire, le marché est dominé par le haricot venant de l'étranger, du Cameroun principalement. Un commerce très rentable, selon l'analyste économique Alphonse Ndongo.
Le prix d'un sac du haricot au Cameroun, il varie entre 15 000 et 25 000. Le sac de 100 kg est revendu, selon aussi qu'on se situe en basse ou haute saison, entre 100 000 francs. La situation peut encore durer parce que quand moi je vois, la demande est là.
Dans les bassins de production de Fouati, de Bokosongo et de Bouansa, la production de haricots pourrait augmenter si les producteurs gardent la main à l'ouvrage. De retour de Ditadi à Loudima, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Le président du Malawi, Peter Mutharika, a donné dimanche le coup d'envoi de la campagne pour sa réélection en mai prochain en présentant le programme de son parti, le Parti démocratique progressiste, devant plus de 5000 personnes à Lilongwe. Monsieur Mutharika, âgé de 78 ans, qui brigue un deuxième et dernier mandat le 21 mai, est au pouvoir depuis 2014. Il affrontera notamment le vice-président Solos Chilima. En Ouganda, une touriste américaine et son chauffeur enlevé ont été libérés sains et saufs contre le versement d'une rançon, a annoncé dimanche l'agence ayant organisé leur safari. Les deux personnes, Kimberly Endicott et Jean-Paul Mirengue, un guide de safari, ont été enlevés mardi par des hommes armés dans un parc national ougandais.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À 2 jours d'élections législatives en Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué vouloir annexer les colonies de Cisjordanie en cas de réélection. Son principal rival, Benny Gantz, a jugé cette prise de position irresponsable. Thomas Kamelindi.
Monsieur Netanyahou a déclaré qu'il appliquera la souveraineté israélienne sans faire de distinction entre les plus grands blocs de colonies et les colonies isolées. Il a aussi prévenu qu'Israël refuserait un futur plan de paix qui demanderait d'évacuer des colonies en Cisjordanie. Le meneur de la coalition centriste bleu-blanc, Benny Gantz, a estimé qu'il est irresponsable de s'exprimer sur un choix stratégique et historique dans le cadre d'une campagne électorale, affirmant qu'il est pour sa part opposé à toute décision unilatérale. Nous ferons tout notre possible pour parvenir à un accord de paix régional et global, tout en restant fidèles à nos principes, a expliqué l'ancien chef d'état-major. Dans la foulée, la Turquie a vigoureusement dénoncé les déclarations de M. Netanyahou. Un haut dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, Saïeb Erekat, a estimé qu'elle n'était pas surprise par les propos de M. Netanyahou. Les colonies installées sur les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 sont illégales au regard du droit international. Leur annexion par Israël pourrait sonner le glas de la solution dite à 2 États, c'est-à-dire la création d'un État palestinien qui coexisterait avec l'État israélien.
Ici aux États-Unis, Donald Trump a annoncé dimanche le départ de sa ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Nielsen, affichant ainsi sa frustration croissante face aux obstacles rencontrés par sa politique d'immigration au moment où le nombre d'interpellations de clandestins est au plus haut. Le président Trump a fait savoir qu'il la remplaçait par Kevin McLennan, jusque-là chef du service américain des douanes et de la protection des frontières, CPB. Ce dernier aura le titre de ministre de la Sécurité intérieure par intérim.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.